ToraBox.com. Pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous retransmet un enseignement de Madame Vanessa Benzaken. Bonne écoute et bon limoud.
La croyance populaire, elle te dit, le degré de discipline, c'est le degré d'obéissance de l'enfant. C'est faux. C'est ma réaction qui va être couverte. Ce n'est que ma réaction qui va être couverte. Vous comprenez pourquoi finalement c'est un recette d'Hachem incroyable que nous avons en main le pilotage. Alors vous allez me dire, oui, dans le négatif aussi, c'est vrai, mais et alors? Nous, on va choisir les bonnes orientations, quel est le problème? Comprenez l'idée? Un autre exemple très rapide, un des enfants voulait aller au Macolette, il n'y avait pas de route à traverser, c'était du piéton, d'accord? Il n'y avait pas de danger, d'accord? Un enfant un peu plus grand. Voulait aller au Macolette, je veux y aller, je veux y aller. Non, c'est pas possible. C'était pas possible, hein, c'est pas que j'ai voulu faire le tyran, ouais. Non, c'est pas possible maintenant. Tu pourras aller plus tard, mais maintenant, c'est pas possible. Le parent, il ne doit pas être gêné d'imposer certaines règles et de donner certaines décisions avec fermeté. Targishi tovimze, sens-toi très bien avec ça. C'est un recette à l'enfant.
Aller plus tard, c'est
tu pourras aller plus tard, à terme, mais maintenant, non. D'accord? C'est clair.
Pour être plus souple dans le non?
Non, c'est parce qu'effectivement, techniquement, c'était possible un peu plus tard, mais maintenant, c'était un problème. D'accord? C'était une situation spécifique. Donc ici, on a dit non. Non, c'est pas possible. L'enfant se dirige vers la porte. Mais si, je veux y aller quand même. Je t'ai dit non. Oui, mais maman, mais quand même. Alors, l'enfant est un grand négociateur, sachez-le. Et c'est le grand professionnel du piratage. C'est-à-dire qu'il veut pirater le système. Vous savez pourquoi il veut pirater le système? Vous vous dites, c'est pour pirater le système. C'est pour se sécuriser. Parce qu'en cherchant à pirater le système, s'il voit qu'il n'y a pas de cracking possible, il se sent sécurisé. Donc nous, on interprète tous les trucs à l'envers. Nous, on se dit, il veut me provoquer, il veut rien du tout, il veut se sentir sécurisé, le monde est effrayant, il a besoin de sentir qu'il a deux remparts au-dessus de lui. On va parler déjà de maman, puisque c'est nous. D'accord?
Oui, mais papa, il intervient quand même. Quand
c'est vrai, mais là, je sais. C'est tout à fait vrai. C'est pour ça que la sagesse féminine va avoir raison de diffuser comme du bon thé chez elle toutes les belles choses qu'elle intègre. Jamais, ni par la force, ni par se substituer au mari qui est le mari, ni par devenir le moré aura de la maison ou le possèque à la de la maison. Chacun va garder sa place de façon admirable. Et la femme, avec cette sagesse qui est la sienne, elle va savoir rayonner et diffuser ces choses-là. Et je vous assure, avec la patience, avec le temps, tout finit par se diffuser comme du bon thé. C'est ma mâche vécue. C'est ma mâche vécue. Elle va et baisera ta chaîne. Alors justement, non, non. Dans le principe, c'est tellement de choses. Il n'est pas du tout nécessaire, et il est même très déconseillé d'adjoindre systématiquement une explication aux demandes. D'accord? Je vais aller plus en détail après. Après, il n'y a plus d'après, mais on va essayer. Vous êtes encore résistante? Ça va chez moi. Non, j'ai toujours, parce que j'ai tellement une envie de transmettre, donner, que parfois je me dis peut-être c'est ta face, ta mère ou belle ou ta face.
C'est facile de leur dire parce que quand ils sont grands.
Non, mais il ne faut pas leur dire parce que, justement, c'est ça. La raison essentielle, suprême et première de mes demandes, vous savez, c'est quoi? Parce que maman l'a dit. Et c'est chokhma. Inimaginable, comme c'est extraordinaire. C'est la raison essentielle qu'on doit donner. Je sais que c'est un très grand pan, c'est pour ça que je ne l'attaque pas là tout de suite. C'est un très très grand pan, les explications. Sachez juste en avant-première que les explications sont contre-productives. Mais alors hautement contre-productives dans le domaine de l'installation de la discipline. On va essayer de le voir très rapidement juste après. Donc, pour vous finir l'histoire sur le Macolette, l'enfant est parti au Macolette. Vous allez me dire, ah, t'as tout raté là. Chaud d'avoir. Jusqu'au moment où moi j'ai gardé mon calme, tout va très bien. Il est parti, j'ai continué de rester sur ma position, tu n'as pas mon ichour. Retenez cette phrase, elle est très très utile. Tu n'as pas la permission de maman, je suis calme et je vais faire autre chose. L'enfant est revenu au bout de 10 minutes, je n'ai rien eu besoin de faire. Juste prier à Kadosh Baruch Hu, bien évidemment. Mais à part ça, rien d'autre. Et très peu de temps après, l'enfant il m'a envoyé un petit pétek, il m'a mis, j'ai dépassé toutes les, en hébreu, avarti et kol agvulot slicha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfant, il sait s'autoréguler. Mais juste ne rentre pas en conflit avec lui. En rentrant en conflit, tu neutralises, tu court-circuites cet apprentissage naturel que l'enfant, il a en lui. L'enfant, il veut des règles, il veut du céder, il veut une sécurisation. Il ne faut juste pas rentrer en rapport de force, c'est tout.
Si s'il recommence, ça veut dire quoi? Qu'il a compris que le...
Ça veut dire qu'il est en train de s'exercer. D'accord? Il nous dit, le Rav, notre objectif dans la discipline n'est pas d'obtenir un 100% d'enfants obéissants. Il dit, un enfant qui obéirait, c'est très important de le retenir, qui obéirait à 100% des demandes est à classer dans le cadre pathologique. Ça va? Ça nous met à l'aise. D'accord? Il dit, notre but est de l'habituer, et pas de le dominer, ni de le soumettre, de l'habituer à vivre dans un cadre où il y a des règles, que ces règles sont cohérentes et fixes, et qu'il n'y a pas de girouette. Est-ce que c'est assez clair le tamtit que je donne maintenant? Oui. Alors, il nous dit...
Mais quand la prochaine fois, vous allez lui parler à cet enfant. Vous lui parlez sur le même temps?
Oui, ça c'est le côté sur le... Oui, c'est... On va lui parler sur le même temps parce que s'il a fait le travail lui-même de reconnaître ce qu'il faut, il a fait ce qu'il faut. Pourquoi je vais être plus dur qu'Akadosh Baruch pour moi?
Avant qu'il reconnaisse.
Non, avant qu'ils avant qu'ils reconnaissent, je suis distante et je prends mes distances. Mais je suis pas, je suis pas en colère dedans. Enfin, je travaille pour ça. C'est pas un fait de naissance,
mais je
évidemment.
Me quand même en colère.
Mais je casse panim velo casse lev. Vous savez que en matière de halakha, de chinuch, il y a très peu de halakhot. Vous savez cette chose-là? Le Rav Yakovson nous dit qu'il y a très peu de halakhot. Pourquoi? Parce que chaque maison est une maison, chaque enfant est un enfant. Même dans une maison, chaque naissance, elle vient à un autre moment de la vie. Même la maison est un produit évolutif. Comment tu veux faire un cadre fixe? Il y a très peu de halakhot.
Est-ce que ça appartient à l'enfant s'il y a des règles qui ne sont pas générales?
Je ne veux pas répondre, je ne sais pas répondre à cette question-là. C'est-à-dire, il faudrait que je pose ma... Oui, bien sûr, bien évidemment. Un enfant va se coucher plus tôt quand il est petit, un peu plus tard quand il est plus grand. Il n'y a aucun problème avec ça. Bien sûr qu'on va moduler, c'est évident. Maintenant, retenez, une des halakhot qu'on a en chinour, qui est une des rares halakhot qu'on a en chinour, c'est que dans la fermeté, notre credo, c'est « ka'asa panim velo ka'asa lev ». Vous connaissez cette chose-là? La colère du visage et pas la colère du cœur. Pourquoi la colère du visage? Parce que si quelqu'un il est ferme tout en souriant, il fait sadique. Pas de sadique, hein. Maintenant, si quelqu'un... C'est pour ça que Chachamim Bechochmatam, ils ont donné la définition claire. Kasa panim velo kasa lev. La colère du visage, feinte, où je fais les gros yeux, mais balev, chalev. Dès qu'il y a la colère du cœur, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la colère du cœur, malheureusement, pour des gens moyens comme moi et les autres, on la connaît. Comment on fait avec elle? Quand il y a la colère du cœur, on ne peut pas faire aucune démarche éducative. Retenez cette chose-là. Quand on est en colère ou en état d'agitation émotionnelle, on ne peut faire passer aucun message. On ne peut faire que des pizzas. On ne peut faire que des dégâts. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il y a la colère du cœur, ça arrive, je m'en vais, je fais autre chose. Va faire la vaisselle, va arroser les plantes, s'il y en a, va faire autre chose. Nekuda, et c'est tout, et ça va passer. D'accord? Donc il nous dit... Et voyons comment on peut condenser à nouveau. Il nous dit, et ça c'est pris du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, que en cédant, en pas cédant le verbe aider, mais céder, hein, en cédant systématiquement à l'enfant, il dit comme ça le Rav Hirsch, on sème involontairement chez l'enfant égoïsme et entêtement. Il dit, un petit tyran. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit tyran. Ouais. Et en plus de ça, nous on vient d'apprendre, on sape sa future capacité à l'autodiscipline plus tard. D'accord? Il nous dit aussi, le Rav Hirsch, il dit que pour le parent, quand l'enfant est tout petit, le besoin ne se fait pas encore sentir. Il ne sent pas qu'il a besoin de le discipliner quand il a un an, deux ans, qu'est-ce qu'il est trop mignon, on n'a pas envie de commencer avec ça. Ouais? Mais chez l'enfant, le besoin est déjà potentiellement là. Et il nous dit... C'est justement le moment propice pour commencer à mettre les premiers jalons de la discipline. Pourquoi? Parce que ne pas s'y prendre à temps, c'est se préparer beaucoup d'efforts à venir doublement. Vous comprenez l'idée? Voilà. Donc, il nous dit vers l'âge de 3 ans, des choses très concrètes, très pratiques. Il y a ce qu'on appelle Gil Améri Arishon, l'âge de la première révolte. Vous avez peut-être déjà passé par cette phase où il était trop mignon et tout d'un coup, là, s'il est israélien, il vous dit non, à tout. Ouais, le stade du non, ça s'appelle aussi, ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit, Laura, sur ça? Il dit, moi j'ai un autre regard sur la chose, mais il n'engage que moi. Il dit, l'autre regard que j'ai sur la chose, il dit, c'est que c'est la première révolte du parent. Pourquoi du parent? Il dit parce qu'avant 3 ans, il est tellement mignon, il est tellement adorable. Chaque fois j'ai des résolutions, il me fait fondre toutes mes résolutions. Mais quand il commence à devenir tyran et qu'il lève plus la voix, là le parent, il dirait, il faut le remettre au pas ce petit. Donc lui, il dit, moi je pense que c'est plutôt la première révolte du parent. Mais ça, c'est une réflexion personnelle. Il dit, Tachlès, sur le concret, comment on traite ça? Première révolte de l'enfant. Il dit, non, comment tu traites ça? Il dit, il y en a qui traitent ça en se mettant contre tête avec l'enfant. Ils étaient doux, trop doux, tout d'un coup ils deviennent trop durs. Et là commencent vraiment les problèmes. Parce qu'il y a trop d'animosité, l'enfant il se sent plus aimé. Quand l'enfant ne se sent pas aimé, il y a toutes sortes de dérèglements qui vont derrière. Je ne peux pas vous dire, c'est 36 cours. D'accord? Donc quand c'est comme ça, il y a, pour l'enfant c'est perturbant. D'accord? On était tout gentil, tout d'un coup on monte la voix d'un coup. Non, c'est pas la solution. D'un autre côté, certains ils vont dire, très comme ça, doux, attendri, ils vont dire non, il faut le laisser s'exprimer, pas frustrer l'enfant. C'est les chitotes, là, vous savez, de psychologie, pas moderne, parce qu'ils ont fait retour, mais d'avant. Et donc, il faut le laisser s'exprimer, il veut son goût, il faut le laisser. Un enfant de 2 ans ne doit pas choisir qu'est-ce qu'il va porter comme habit. Un enfant de 2 ans, c'est nous qui devons le guider. Maintenant, si à 3 ans, il commence à dire « je veux pas ça, je veux pas ça », qu'est-ce qu'on va faire? On va tête contre tête? Non, la solution est très simple. On va lui proposer des choix fermés. Vous me faites une dure concurrence avec cette table extraordinaire. Manier, oh là là, ça. Alors, je vais essayer de tirer les dernières résistances. Et, qu'est-ce qu'on fait? On propose des choix fermés. Quels choix fermés? Tu veux la robe rouge ou la robe bleue?
Je veux mettre mes bottes.
Alors, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il nous dit ici. Il dit, les choix fermés, l'art du choix fermé, c'est quoi? C'est que j'ouvre un espace de respiration pour l'enfant. Il a besoin maintenant d'autonomie. Aninotenlo, je lui donne. Je lui donne, mais l'initiateur du référentiel, c'est moi. Donc ça veut dire, si tu choisis entre ça et ça, je suis le codificateur du choix. C'est ou ça ou ça. Et si tu veux la troisième chose, Aniomed al-Sheli. Comme ça, il dit le rabbin. Aniomed al-Sheli. C'est-à-dire, sur le troisième chose, je ne cède pas. C'est pour ça qu'il est important pour nous de savoir déjà là où on veut aller et d'être chalem avec nous-mêmes.
Donc là, il n'y a pas le coup, on la laisse mettre les bottes quand même.
Ben non, si vous aviez dit les sandales ou les sandales roses ou les sandales bleues, si tant est qu'il y a des paires.
Moi, je veux. Non, tu as le choix entre ça et ça.
Non, alors, si il a déjà dit au départ, sans qu'on ait énoncé aucune règle, je veux mettre les bottes et qu'il n'y a pas de problème qu'ils mettent les bottes, là, Malo.
Si, il y a un problème de chaleur.
Ah, qui fait chaud. Rangez les bottes en hauteur. Ça vous évitera tous les problèmes. Moi, c'est ce que je fais. Je suis devenue très fonctionnelle. Vous mettez tout ce qui ne se porte pas en hauteur et c'est terminé. Il n'y a plus de problème. C'est comme les plantes. Il y a des dames qui disent, mais qu'est-ce que mes plantes? Tu as des enfants de 2 et 3 ans. Qu'est-ce que tu veux des plantes? Mets-les en hauteur. Enlève les sujets de conflit. Pourquoi multiplier les problèmes? D'accord? Il y a des solutions très concrètes. Maintenant, pour ce qui est des choix fermés, c'est très simple. C'est, tu lui proposes, tu veux, il dit en rigolant, le Rav, il dit, tu veux la gvina levana sur le fromage blanc sur le pain ou le pain sur le fromage blanc? Ça, c'est pour la boutade. Donc ça veut dire que l'enfant, tout ce qu'il a besoin, c'est de sentir qu'il peut commencer à exprimer des choix. Mais je ne dois pas être mafkiroto. Je ne dois pas laisser à l'abandon la chose parce qu'il a besoin de faire des choix. Et je ne dois pas non plus m'entêter parce que je veux dominer l'enfant. C'est quoi ces histoires? Donc des choix fermés, c'est l'idéal. D'accord? Ça, c'est vers l'âge de 3 ans. Et comment se diffuse l'autorité, nous dit le Rav? L'autorité, c'est une diffusion silencieuse d'une assurance personnelle. Si nous, nous manquons d'assurance, qui est le commun du profil de l'individu contemporain, eh bien, il faut se remplir. J'ai une achrayut, j'ai une responsabilité. Hachem même, il m'a donné ses enfants. Ses enfants sont le témoin qui m'a accordé sa confiance. Vous savez que ce ne sont pas juste des mots poétiques, c'est de l'ashkafa de Torah. J'ai eu la chance d'apprendre auprès du Rav Jacobson. Donc toutes ces choses-là doivent me remplir de l'intérieur, que non seulement c'est justifié d'être la source d'autorité, mais c'est bon pour lui, c'est l'idéal que je dois atteindre. Pour cela, quand je me remplis, je me sensibilise à quel point c'est important, que le rôle, l'importance aux yeux de l'enfant que j'ai, la responsabilité qui est dans mes mains, parce que l'enfant n'est pas à moi, je ne vous le rappelle pas, aux yeux de la Torah, l'enfant est un picadon. C'est un dépôt sacré qui est dans ma main, il n'est absolument pas à moi. Je sais que c'est très dur pour nous de le vivre parce qu'on a été formaté d'une toute autre manière. Mais enfin, c'est la réalité. Donc quand c'est comme ça, lorsque je fais des demandes, je ne vais pas me sentir mal à l'aise. Puisque la valeur suprême à la maison, ce n'est pas la démocratie. C'est Abba ve'ima mena alim et abayt. Papa et maman dirigent la maison. Il n'y a aucun problème avec ça. D'accord ? Donc, il nous dit, qui est écouté ? À votre avis, qui est écouté ? Celui qui s'attend tout naturellement à être écouté. D'accord ? C'est très simple. Hein. Je vous fais un tel condensé que j'espère que vous allez pouvoir absorber toutes ces choses. Moi-même, je les absorbe à peine, donc j'espère que ça va être quand même les toilettes. Donc, il nous dit, celui qui s'attend à être écouté, c'est une diffusion silencieuse. Il dit, en cas de panique, il y a un endroit, il y a du feu, du truc, quelque chose. Remarquez cette chose-là. Quand il y en a un, qui n'est pas forcément qui a le quotient intellectuel le plus élevé de la foule, mais qui est entreprenant, il dit, suivez-moi, tout le monde le suit. Mais quoi, il sait, il est pompier, il sait. Non, il ne sait pas, mais dans ce moment de panique, j'ai besoin de quoi ? De me raccrocher à quelqu'un qui a l'air de savoir. C'est un besoin naturel de l'homme. Donc, de la même façon aussi à la maison. Alors, il nous dit, pour rectifier, parce qu'il dit, je sais que tout ce que je vous dis, c'est les khatrila. Comment on dit ça ? A priori. Mais vous allez me dire, mais dans nos maisons, on n'en est plus à les khatrila. Dans nos maisons, il y a déjà une faune très colorée. Merci Rabbi Jacobson, vous nous dites comment il faut faire les khatrila. Nous, on est complètement dans Bediavad, on est complètement dans a posteriori. Comment on rectifie ? Alors, il nous dit, il n'y a pas une recette magique pour tous, puisque chacun est un cas particulier. Mais l'idée, c'est d'habituer l'enfant à écouter en multipliant les situations où il écoute facilement. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça veut dire quoi ? C'est, si je dis ça en une phrase très courte, c'est alimenter la dynamique d'obéissance et ne surtout pas alimenter la dynamique de désobéissance. C'est-à-dire que dans les choses où vous savez qu'il y a déjà des gros conflits, si c'est possible, les italem. Si c'est possible, ignorer la chose. Dans des cas, lorsque l'enfant n'a pas vu que j'ai vu, il n'y a aucun problème éducatif ici. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Beaucoup de fois, un grand secret de Chinour, c'est les italem. Faire comme si que j'ai pas vu. Vous savez combien de fois je fais comme si que j'ai pas vu ? S'il savait. Faire comme si que j'ai pas vu, il n'y a aucun dommage Chinouri ici. Pourquoi ? Parce que tant que l'enfant n'a pas vu que j'ai vu, il n'y a aucune implication éducative. Si l'enfant a vu que j'ai vu, là c'est plus problématique. D'accord ? Beaucoup de fois, Efchar les italem. Beaucoup de fois, on peut ignorer. D'accord ? Beaucoup de fois, et c'est une très grande sagesse éducative. Maintenant, dans d'autres cas, si on voit que l'enfant il fait facilement certaines choses et qu'on n'a même pas besoin de lui demander la chose, eh bien, donne l'injonction quand même. C'est chokhma. C'est-à-dire qu'en faisant ça, qu'est-ce que tu fais ? Tu multiplies les situations où l'enfant se voit obéir dans des terrains qui sont neutres, pacifiques. Toi, tu dis, mais ça sert à quoi ? Je ne suis pas déjà assez occupée avec mes carottes et mes machins. Ça sert à quoi ? Kachabonim. C'est comme ça qu'on construit. Pas à travers les rapports de force, pas à travers les situations conflictuelles. Les situations conflictuelles, il nous dit l'admour de Gour, le Beth Israël. On lui a posé une fois cette question. Comment vous faites pour que votre communauté vous écoute ? Écoute tout ce que vous dites. Vous savez ce qu'il a répondu, ce Gaon ? Il a répondu, parce que sur les choses où je sais qu'on ne m'écoutera pas, je ne le dis pas. Non, parce qu'ils veulent entendre. S'ils pensent qu'ils peuvent être mécabels, il va le dire. S'ils pensent qu'ils ne peuvent pas recevoir, il ne le dira pas. Il dit, yesh mitzvah, lole agid mashelo nishma. On oublie, il dit qu'il y a une mitzvah. Qu'il y a une mitzvah de ne pas dire ce qui ne sera pas entendu. Zenachon meod, exactement. Tu ne placeras pas, c'est la suite exactement. Donc il nous dit, c'est pour ça qu'il nous dit, on ne peut pas tout couvrir ici, mais je vais essayer d'aller un peu plus vite. C'est pour ça qu'il nous dit que dans un cadre bien spécifique qui ait une implication halakhique, il dit, on ne devra jamais utiliser la notion de kibud horim dans la discipline. Il dit, non seulement, je respire, non seulement c'est contre-productif, mais il dit, mais c'est hautement anti-éducatif. Hautement anti-éducatif. Je sais que des fois, quand le parent il est fatigué, il est dépassé, il en a assez, il tire le dernier joker. Mais qu'est-ce que c'est que ce kibud horim ? Et le kibud horim ? Oublie ça. Alors, le Rav dit, mais quoi ? Mais on a l'obligation d'éduquer les enfants au kibud horim. Quand est-ce qu'on éduque les enfants au kibud horim ? Rav Jacobson, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez nous faire des remises de peine ? Non. Kibud horim, ça s'enseigne en terrain positif. L'enfant, il vient de m'apporter un verre d'eau. Tifterhi et apercha, ouvre la bouche maintenant. Merci mon fils, tu as une mitzvah de kibud horim. Quand l'enfant fait des bonnes choses, qu'il réussit, c'est maintenant que tu parles de kibud horim. Pas quand l'enfant il échoue, pas quand l'enfant il désobéit. Quand l'enfant il est désobéi, comment je le gère ? Alors quoi, c'est la farce, c'est la jungle? Pas du tout. Je le gère avec des directives, pas du moussard. Ça, c'est aussi un très très grand ridouche. Enfin, c'est pas vraiment un ridouche, mais on l'a oublié beaucoup. Le moussard doit être réservé exclusivement en situation de réussite. Quand l'enfant, il a dit la vérité, fais-lui toute la paracha sur le moussard de le Emet, combien c'est important, le Emet, combien c'est merveilleux. Quand il a menti, ferme la bouche, dis on ne ment pas, c'est tout. On gère l'enfant avec des directives, pas avec du moussard. Des directives. Et le moussard, on le réserve en situation de réussite. C'est pour ça que Kibbout Orim, et ici, c'est une histoire du Stipler que je vous raconte très très brièvement. Le Stipler, un jour, un père est venu avec Rav Yaakovson chez lui. Et ce père a dit, mon adolescent, qui avait donc, peut-être il avait 14 ans, il transgresse des dizaines de fois Kibbout Orim par jour. Le Stipler, il lui a dit, comment il transgresse des dizaines de fois? Rencontre le Stipler. Et il lui dit, eh ben parce que je lui dis de faire des choses, en lui disant que c'est Kibbout Orim, il doit le faire, et il ne le fait pas. Il paraît, le Rav Yaakovson dit, je ne pourrai jamais enlever de ma mémoire cet épisode de ma vie parce qu'il m'a complètement traumatisé. Il dit, j'ai vu le Stipler blanchir, trembler, et il a répondu à ce père, c'était un père en question, il lui a dit, ma ataose, qu'est-ce que tu fais? Hachem irachem. Quoi? Alors le monsieur n'a pas compris, il a dit, quoi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Il lui dit, est-ce que tu te rends compte que quand tu donnes à ton fils plus, qui est plus que bar mitzvah, oui, qui est donc maintenant il a le hall des mitzvot, tu lui donnes une injonction que tu es presque sûr qu'il ne va pas faire et que tu lui dis que c'est au nom de Kibbout Orim, tu te rends compte que tu fais l'ifnei iver l'utiten mirchol, tu ne placeras pas une embûche sur le chemin d'un aveugle et que ça c'est deoraita, ça c'est une mitzvah de la Torah. Il dit, qui c'est qui va te pardonner? Mirchaper l'echalze. Il dit, l'enfant, lui, il peut se sortir d'affaire, tu vas lui pardonner parce que tu serais un sot si tu lui pardonnerais. Il est chaud et gamouri, lui a dit. Mais toi, qui va t'expier ça? Des dizaines de fois par jour? Donc c'est pour ça que quand un enfant désobéit, ne parlons pas de Kibbout Orim, jamais. On dit, on doit obéir à papa, maman. On ne désobéit pas, on ne parle pas comme ça à papa, maman. On ne doit pas mentir. Des directives et pas des reproches. Et pas du moussa. Ça aussi, c'est, si j'ai pu faire passer cette chose-là, qui est tellement un écueil, tellement classique, dans lequel la majeure partie tombe, et qui fait des gros dégâts, je ne peux pas détailler maintenant, mais des très très gros dégâts. Si déjà ça j'ai pu le faire passer, je serais très très heureuse, Bezrat Hashem. Donc on va conclure tout de même. Oui, on va vraiment vraiment conclure. Je vous remercie de votre patience, vraiment, Yishar Koach Gadol. On a encore beaucoup de choses à voir, mais je veux conclure sur une chose. Oui, je vais passer les explications. Les explications, elles ne correspondent pas à la notion de la discipline. Puisque la notion de la discipline, dans un regard de Torah comme on est en train de l'étudier maintenant, c'est qu'on est habitué à obéir parce que c'est normal d'obéir à l'autorité. Pas parce que c'est censé, pas parce que c'est logique ou compréhensible. Or, lorsque je donne une explication systématique à l'enfant avec ce qu'il doit faire, des fois même avant qu'il la demande, moi je sais que c'était incroyable, chez moi c'était automatique. Fais ça pour ça, fais ça comme ça si. Mais pourquoi tu donnes tout le temps des explications? En réalité, c'était une difficulté à asseoir cette assurance de donner des injonctions. J'ai compris qu'après. Mais ça veut dire qu'en donnant tout le temps des explications, quel est le message que tu donnes à l'enfant au petit lait? Ça veut dire qu'il rentre dans ses cellules. C'est que si c'est censé, si c'est logique, je suis tenu de le faire. Et si ça ne l'est pas, je suis délié de mon obligation. Donc ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire je fais. Non, je comprends. Et donc je fais. Ça va avec un juif, ça? Il dit, le Rav est très, très, très véhément sur cette chose-là. Il dit, quel genre de Eved Hashem tu veux construire avec une mode éducative comme celui-là? Il dit, parce que nous, tous les sens du juif, c'est Naase Venishma. Alors comment tu veux rentrer maintenant cette chose-là? Il fait que s'il comprend, c'est tout le contraire. Tu lui rentres au berceau des images qui sont complètement déformées. C'est un développement qui peut nous prendre une bonne demi-heure, mais je ne peux pas le faire maintenant. Je donne juste au moins l'essentiel, d'accord? Donc, si on veut expliquer à l'enfant, on peut expliquer à l'enfant, mais après qu'il a fait la chose. En règle générale, je dis bien en règle générale, avant, il vaut mieux éviter d'expliquer. Tu le fais, pourquoi? Il vous dira toujours, pourquoi? Parce que maman l'a dit. Il va vous redire pourquoi, ne vous inquiétez pas. Il va dire, mais pourquoi? Parce que maman l'a dit.
Et après, on explique?
Si, après qu'il l'a fait, oui. Après qu'il a fait la chose, aucun problème. Explique-lui maintenant tout le fichier, de long en large. Pourquoi? Parce que Non, ce n'est pas simplement au niveau du, ce qui est le plus important pour nous, le Eved Hashem, c'est même au niveau de l'être humain. Ça ne colle pas avec l'être humain, cette chose-là. Pourquoi ? Parce que tant qu'un enfant n'a pas envie de faire quelque chose, tu peux lui expliquer jusqu'à après-demain, il ne comprendra pas. Je ne peux pas détailler maintenant, c'est un développement passionnant, mais je ne peux pas le développer maintenant. Mais j'ai, bon, après je vous dirai ça. Et lorsqu'on a fait ça, regardez, lorsqu'on a fait ça dans les premières années, l'enfant ne demande plus d'explication.
Maintenant qu'on a raté.
Maintenant, si on sait, comme nous tous, voilà, enfin nous tous, pas tous, j'espère, mais lorsqu'on est dans du bédiavad, alors on peut expliquer à l'enfant, c'est ce qu'il a dit le Rav, il a dit organiser ce qui s'appelle une discussion. Il dit en hébreu, je vous promets en français, il dit comment c'est la Tzor Fatim, il dit comme chez les Français, une discussion. Et vous allez faire une discussion familiale et vous allez expliquer, le dernière explication, qu'il n'est pas une bonne chose de tout expliquer. Et que pour son chinour de Ben Adam et de Juif, eh bien, on va l'entraîner. C'est pas une punition, c'est immunim. Je t'entraîne, je vais t'entraîner à faire les choses sans forcément comprendre, parce que ça va pas avec notre façon de voir les choses et de vivre. Donc, je peux expliquer ça, oui, s'ils sont grands et si ça fait déjà des années que le régime politique était à l'envers, on peut faire une dernière conférence de presse. Maintenant, on peut aussi expliquer à l'enfant que nous aussi, nous sommes tenus de faire des choses sans comprendre. Que ce n'est pas ici un rapport de force de moi par rapport sur toi. Mais moi, parent, je suis fait des centaines de choses que je ne comprends pas. Et tout va bien. Et c'est comme ça qu'on fait un Ben Adam. Maintenant, pour terminer, je vous dis pour terminer à chaque fois. Hein. Alors, pour terminer, pour de bon. Pour de bon. Il nous dit comme ça. Discipline sans chaleur et affection, encouragement, n'a aucune chance de s'instaurer. Retenez bien cette chose-là. S'il y en a qui sont plus versés dans la discipline, ils doivent comprendre qu'ils doivent alimenter le réservoir d'amour et d'affection à côté. Et de l'autre côté, pourquoi ? Parce que ça ne fait que de l'hostilité, de la mauvaise atmosphère à la maison, des rapports de force, ça ne va pas du tout. Discipline va automatiquement avec une abondance d'amour, d'affection inconditionnelle, tout ça va ensemble. D'accord ? Maintenant, amour sans discipline, plus intéressant, plus contemporain. Amour sans discipline, c'est bien, c'est pas bien. Il dit Gamzebaya. Ça aussi, c'est un problème. Pourquoi ? Il dit ce n'est pas de l'amour véritable. Je m'excuse pour les phrases chauves du Rav Jacobson. Il dit c'est Ahavat Atzmit. C'est de l'amour de soi. Pourquoi c'est de l'amour de soi ? Parce que quand je ne suis pas capable de me discipliner, à le discipliner, de tenir jusqu'au bout les règles, je m'achète ma popularité, en fait. C'est ça que je cherche. Je m'achète ma popularité. C'est Chanoufa, il dit en hébreu. D'accord ? J'ai peur que l'enfant m'aime plus. Oh, je sais que c'est idiot aussi. L'enfant, il t'aime. Tout ça, c'est des choses que tu as à remplir de chez toi, à l'intérieur. L'enfant, il t'aime, il t'aimera. Et il t'aimera d'autant plus s'il sent que tu sais être ferme et cohérent. Endava, Kazé, l'enfant, il m'aimera plus. Endava, Kazé. C'est de l'imagination. Je m'achète mon confort au détriment de l'enfant, parfois. J'en ai assez des pleurs et des cris. Je m'achète mon confort, tiens. Je me suis acheté quoi ? Mon confort. Je pense m'assurer son attachement. Il dit tout ça n'est qu'une illusion parce qu'avec le temps, l'enfant, il commence à le sentir. Que le parent se préoccupe de ses propres intérêts et il s'en distancie. C'est la réalité. D'accord ? Donc, il nous dit la discipline, c'est ce qui va prodiguer à l'enfant. Amivne anafshi hanidrash, c'est-à-dire la constitution nafshit requise, pourquoi, mesdames, c'est le plus important, pour accueillir la Yirat Shamayim. Pourquoi ? Parce qu'un Yiré Shamayim, quelqu'un qui craint le ciel, est humble. Humble, ça veut dire qu'il pense qu'il a des devoirs et pas des droits. Nous sommes dans une société moderne. Les droits de l'homme, les droits de ci, les droits des chiens, les droits des tortues, les droits de toute la terre, ils veulent tous des droits. Nous, juifs, c'est Machovato Beolamo, selon la chambre du Ramchal. C'est notre interrogation, quel est mon devoir ? Qu'est-ce qu'on attend de moi ? D'accord ? Ce n'est pas mes droits. Les droits, c'est des déformations déjà qui viennent de l'extérieur. Mais quand chacun fera ses devoirs, tout le monde aura ses droits. Vous comprenez ? Mais nous, notre focalisation, c'est comme ça. Un Yiré Shamayim, il pense qu'il a des devoirs et non des droits. Ce qui va en contradiction complète avec l'enfant roi, dictateur à qui tout revient de droit. Ok ? Je vais faire des petites équations. Un Yiré Shamayim est responsable et loyal. Oui ? Chez lui, les mots engagent. Ça va avec le contraire de gâter et assister. Ok ? Un Yiré Shamayim, il est habitué à se plier à une autorité supérieure et à lui rendre des comptes. Donc, il est habitué à quoi ? Knia shel nefesh la da'at. Il est habitué à ce que son nefesh est soumis à sa raison. C'est-à-dire les pulsions sont soumises à la raison. D'accord ? Donc c'est complètement le contraire de l'individu qui est sujet aux caprices et aux humeurs. Vous avez compris comment je vous ai fait ? Je sais, c'est très vite, très rapide. Et privé de cette préparation-là, c'est un peu comme partir avec des béquilles spirituelles pour acquérir ce qui s'appelle la Yirat Shamayim. Et l'histoire finale, c'est une petite histoire du grand-père du Rav Yaakovson qu'il nous a raconté en cours. Il nous a dit que son grand-père a été emprisonné par la Gestapo. Et son grand-père était comptable. Il s'occupait de différents comptes. Les Allemands savaient qu'il s'occupait de grosses fortunes. Et donc, un de ses grands clients, une grosse fortune, s'est sauvé en Suisse. Je crois qu'ils sont de Hongrie. Et lorsque la Gestapo a su ça, ils ont emprisonné le grand-père du Rav Yaakovson pour tirer les informations. Où sont les comptes? C'est quoi les numéros de compte? Où est la fortune de ce grand monsieur qui est parti en Suisse? Le Rav Yaakovson, sentant que les intimidations commençaient à se multiplier, a demandé à son Rav. Le monsieur, il est parti en Suisse. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai le droit de parler si on m'attrape? J'ai pas le droit. Son Rav, il lui a dit, Béchoum, panim, veofen. En aucun cas, en aucune manière. D'accord? Donc, c'est ça l'obstacle du Rav. Maintenant, il s'est fait attraper après, carrément, par la Gestapo. Il a été torturé, le grand-père du Rav Yaakovson, pendant 100 jours. 100 jours. Et par un effet miraculeux, ils ont vu qu'il n'y avait rien à tirer avec lui, il n'y avait rien à faire. Ils l'ont relâché après 100 jours. Et ils ont pu monter en Israël, et grâce à Dieu, ils ont été sauvés. Maintenant, un jour, un vendredi soir, Rav Yaakovson, enfant, était chez son grand-père pour Shabbat. Et il voit son grand-père qui a dénudé un petit peu ses pieds pour se reposer après le repas. Et il voit sur ses talons des mégots de cigarettes. Alors, des traces de mégots, oui. Alors il lui a dit, grand-père, qu'est-ce que c'est? Alors il lui a dit, je te raconterai, jusqu'au jour où il lui a raconté. Et il lui a expliqué cette histoire-là, qu'il a été torturé, il n'a pas parlé. Le Rav Yaakovson, il lui dit, mais grand-père, parce qu'il lui a dit, ça c'était pendant les pauses, les mégots. Pendant la vraie séance, c'était pas ça. Il lui dit, mais grand-père, comment tu as fait pour ne rien dire? 100 jours, tu as été torturé par ces monstres, 100 jours, tu as rien dit? Il a dit, la réponse de mon grand-père était déconcertante de simplicité et de grandeur. Il a répondu, avala sourd. Chez certains individus, le mot assourd, c'est comme un gouffre béant. C'est comme une porte en acier. Il n'y a pas oui, peut-être, non, peut-être pas. Zeirachamay. Voilà, c'est ça la Zeirachamay. Donc il nous dit, nous on va pas se décourager si nous on n'a pas grandi dans un environnement de discipline et qu'on part déjà peut-être avec un travail à compléter. Parce que on va se rappeler de Shlomo Ameler qui nous dit, si tu la recherches comme les trésors, alors tu pourras acquérir le sens de la véritable Yirat Shamayim. Donc on se découragera jamais, on priera et on réussira.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox www.torah-box.com trois enseignements de judaïsme par des rabbanim différents sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.